En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie. Bonjour, comment sommes-nous passés de l'Australopithèque à l'Homo sapiens? Quelle est l'histoire de l'homme? Ce sujet était l'objet d'une conférence donnée à l'Académie des Beaux-Arts par le professeur Yves Coppens, membre de l'Académie des Sciences. Cette séance n'était pas accessible au public, mais Canal Académie a eu la chance d'y assister. Nous avons donc le plaisir de vous la retransmettre. Juste avant de laisser la parole au professeur Yves Coppens, quelques mots pour le présenter. Membre du CNRS et titulaire de la chaire de paléo-anthropologie et préhistoire du Collège de France depuis 1983 et jusqu'à 2005, il a mis au jour les différents stades de l'espèce humaine lors de ces 10 derniers millions d'années. Les hominidés se seraient développés en passant par un stade pré-australopithèque, puis par un stade australopithèque, premier tailleur de la pierre, et enfin par le stade homme. Plus récemment, Yves Coppens a également montré pourquoi, depuis 100 000 ans, l'évolution de l'homme s'est ralentie puis arrêtée. Et je vous laisse écouter tout de suite la conférence du professeur Yves Coppens sur l'histoire de l'homme.
Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, je suis très, très honoré de me trouver dans cette Académie des Beaux-Arts, consoeur de notre Académie des Sciences, et que je n'avais pas encore eu l'occasion de visiter. Alors, bien sûr, je vous ai annoncé une conférence sur l'histoire de l'homme. Je crois qu'il est intéressant de poser, bien que c'était déjà un petit peu traité, le fait que l'histoire de l'homme, puisque l'homme est un être vivant, l'histoire de l'homme, c'est une partie de l'histoire de la vie. L'histoire de la vie est une partie de l'histoire de la Terre. L'histoire de la Terre est une partie de l'histoire de l'univers, si bien que de proche en proche, si l'on peut dire, on passe de quelques millions d'années à une douzaine de milliards d'années, puisque les astrophysiciens aujourd'hui situent les premiers quarks dont ils ont, disent-ils, la trace autour d'une douzaine de milliards d'années. Donc c'est en fait l'histoire des 12 derniers milliards d'années que je vais vous raconter, bien sûr, à grands traits. Alors, il y a une chose intéressante, c'est que cette matière inerte apparaît donc dans nos connaissances, et pas, peut-être pas à l'origine, mais en tout cas dans nos connaissances il y a une douzaine de milliards d'années, et cette matière inerte apparaît comme, avec le temps, se compliquant et s'organisant. Moi, je suis très frappé par cette affaire. Je trouve que ça donne un sens et ça donne une direction. Et ça donne du sens en même temps à cette histoire générale de la matière. Les premiers éléments sont, comme je vous le disais, appelés des quarks, et puis les quarks se compliquent et s'organisent et deviennent des particules, lesquelles particules s'organisent et se compliquent et deviennent des atomes, et les atomes eux-mêmes vont bien sûr se compliquer et s'organiser et devenir des molécules. Or, il se trouve qu'il y a un peu moins de 5 milliards d'années, 5 cette fois, c'est le système solaire qui se met en place au sein d'une galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Et dans ce système solaire, bien sûr, comme dans n'importe quel système stellaire, comme autour de n'importe quelle étoile, des planètes se mettent en place qui ne sont que des poussières qui n'ont pas été absorbées par les étoiles en question. Et ces poussières fabriquent des planètes, et parmi les planètes du système solaire, il y a bien sûr notre Terre. Or, il se trouve que notre Terre, grâce à sa masse, et grâce en même temps à sa distance de son étoile, c'est-à-dire du Soleil, a gardé, chose extraordinaire, enfin extraordinaire a posteriori, a gardé son eau liquide, et a gardé en même temps son atmosphère autour d'elle. Et c'est dans cette eau liquide que les molécules, qui sont l'état le plus compliqué et le mieux organisé de la matière avant que la Terre n'apparaisse, que l'on sache, eh bien c'est au fond de cette eau que les molécules vont s'agglomérer, se réunir, et elles-mêmes se compliquer et s'organiser en des petits organites, des petites unités que l'on appelle des cellules. Ces cellules auront une membrane, ces cellules se mettront à échanger matière et énergie entre elles et avec l'extérieur, avec l'environnement. Et d'autre part, ces cellules seront dotées d'un pouvoir étonnant, d'une spécificité particulière, c'est l'aptitude à se reproduire. Et c'est un peu ce que l'on appelle la vie, c'est la définition de ce que l'on appelle la vie. Autrement dit, dans des conditions, lorsque les conditions se présentent, en l'occurrence dans l'eau sur la Terre, la matière qui est dite inerte n'a pas manqué de se compliquer et de s'organiser encore. Et cette matière vivante va continuer à se compliquer et à s'organiser, c'est-à-dire qu'elle va rester sous une forme unicellulaire pendant 3 milliards d'années, dont 2 milliards d'années unicellulaires sans noyau, et puis le troisième milliard d'années dans ces cellules va se constituer un petit objet qui va s'appeler le noyau et dans lequel, en effet, va se distinguer l'ARN d'abord et l'ADN ensuite, dont on vous a parlé, je crois, il y a 15 jours. Donc la vie sera toujours unicellulaire, mais un petit peu plus compliquée, un petit peu mieux organisée. Vous voyez, je n'ai pas peur des répétitions. Et cette vie va se compliquer et s'organiser à nouveau durant le dernier milliard d'années, puisque d'unicellulaire, elle va se faire pluricellulaire. La vie pluricellulaire se développe à son tour, dans l'eau d'abord, parmi les organismes qui vont ainsi apparaître, vont émerger des êtres à cordes, autrement dit à colonne vertébrale, ce que l'on appelle les vertébrés. Donc ça se complique à nouveau, mais c'est toujours dans l'eau, autour de 600 millions d'années. Et puis vers 500 millions d'années, certains de ces organismes, d'abord végétaux, ensuite invertébrés, ensuite vertébrés, vont se mettre à se développer sur Terre, sur les continents, dans un milieu aérien. Et c'est la première fois, Et on l'oublie parfois, c'est-à-dire qu'après, je ne dis pas de bêtises, après 3 milliards 500 millions d'années passées dans l'eau, la vie enfin sort de l'eau. Il y a eu 3 milliards 500 millions d'années où la vie n'avait pas apparu, n'était pas apparue encore sur les continents, sur la croûte terrestre. Et à partir de 500 millions d'années, donc, c'est fait en partie, forcément, puisque bien sûr, bien des êtres restent dans l'eau. Et ces êtres qui vont se trouver sur la Terre vont eux-mêmes se compliquer et s'organiser. Alors attachons-nous à l'histoire des vertébrés, puisque c'est la nôtre. Ces vertébrés sont d'abord des amphibiens, c'est-à-dire amphis, vous voyez, deux vies. Ils vont à la fois respirer par des branchies dans l'eau et par des poumons sur la Terre. Et puis certains de ces amphibiens deviendront des reptiles, certains des reptiles deviendront des mammifères il y a 200 millions d'années. Les premiers 100 millions d'années de ces 200 millions d'années seront consacrés, occupés par des mammifères ovipares. On a 100 millions d'années d'histoire des mammifères pondant des œufs avant que n'apparaissent les mammifères que nous connaissons bien puisque nous en faisons partie, avec une vie dans un placenta, autrement dit les mammifères vivipares. Et parmi ces vivipares vont apparaître les primates il y a 60 à 70 millions d'années. Les primates, c'est nous qui les avons nommés, hein, bien sûr, ça s'appelle les premiers. Et les premiers pourquoi ? Parce que nous en faisons partie. Et ces primates, c'est l'histoire des grands singes, des petits singes et des hommes qui va suivre son cours dans le même sens, dans le sens de la complication et de l'organisation, pour voir apparaître les préhumains il y a une dizaine de millions d'années, les humains il y a 3 millions d'années, et l'Homo sapiens il y a 500 000 ans. Donc vous voyez que c'est un grand trait. Alors, parfois, et surtout avec des enfants, c'est toujours un bonheur d'enseigner à des petits. J'en prends un du premier rang et je lui dis, tu sais, si tu demandes à ton papa de t'acheter un microscope à très très fort grossissement, quand même 10 millions de fois, quoi. S'il grossit un million de fois, ça ira. Et en multipliant par 10 dans la chambre noire, tu auras un grossissement de 10 millions. Eh bien, si tu regardes ta peau avec ce microscope, tu verras les atomes. Ce sont les mêmes que ceux que tu peux trouver dans les étoiles. Alors, évidemment, ça l'impressionne vis-à-vis des autres petits camarades. Si ton papa trouve que c'est trop cher, il t'achète un microscope moins cher, tu regardes toujours ta peau et tu y verras des cellules comme les toutes premières cellules apparues sur la Terre il y a 4 milliards d'années. Ce sont les mêmes. Puis tu verras qu'il y a un petit noyau dedans comme celles qui sont apparues sur la Terre il y a 2 milliards d'années. Et puis tu verras que ces cellules s'organisent en tissus, en organes, et que ceci s'est fait il y a 1 milliard d'années sur la Terre. Si maintenant tu vas passer une radiographie, tu apercevras sûrement que tu as un squelette interne qui te permet de te tenir debout, qui te permet de t'asseoir. Et ce squelette interne, il ressemble à celui qui est apparu sur la Terre il y a 600 millions d'années. Tu verras que tu as des poumons comme les petits vertébrés d'il y a 500 millions d'années, les premiers qui ont osé sortir de l'eau de temps en temps. Et si tu passes comme ça ton doigt sur ta propre peau ou la peau de ton petit voisin ou ta petite voisine, tu sentiras un duvet. Et alors je leur dis inévitablement, si tu sens des écailles, viens me voir, ça m'intéresse. On fera une communication ensemble à l'Académie des sciences, bien sûr. Mais je n'ai pas trouvé d'écailles encore. Et ce soir, quand tu rentreras chez toi, retire ta chaussure en pensant à moi et tu verras que normalement, tu as un gros orteil qui est parallèle à tes autres orteils parce que tu es debout depuis probablement une dizaine de millions d'années. Et tu es debout en permanence, tu es bipède exclusif depuis 4 millions d'années peut-être. Et si ton pouce diverge comme ça des autres doigts, viens me voir aussi, ça m'intéresse. Donc voilà. Alors ceci pour, bien sûr, pour rappeler que toute cette histoire est notre histoire. Ce n'est pas une histoire, mais c'est véritablement une histoire dont nous faisons partie. Alors l'histoire de la vie, c'est l'histoire d'un superbe bouquet, d'un immense bouquet de 4 milliards d'années d'existence, avec des créations, on peut dire ça comme ça, avec une imagination extraordinaire et une fabrication de quantité d'êtres, une grande diversification des êtres vivants. On est à la fois très impressionné quand on fait de la paléobiologie, en l'occurrence, à la fois très impressionné par le fait que la vie se trouve être très canalisée par cet ADN dont on vous a parlé, qui fait que des parents d'une certaine espèce ne peuvent pas donner un enfant d'une autre espèce. Et on sait un peu ce que sera le petit d'un couple, mais d'une autre manière tout de même, d'une autre façon, on est impressionné par la diversification de la vie et la créativité de cette vie quand elle en a la possibilité. Et comme rien n'est stable, comme tout change, aussi bien la place des continents, la place des océans, que les environnements et que leur climat, je devrais dire les climats et les environnements qu'ils induisent, eh bien la vie elle-même change, et la vie change, non pas pour le plaisir de se transformer, c'est un très joli mot, hein, le transformisme, celui de Lamarck il y a presque 300 ans, mais elle se transforme simplement pour s'adapter à un milieu qui change, et pour survivre, bien sûr, pour essayer de se maintenir en vie dans ce système qui bouge beaucoup. Alors, au sein de cet immense bouquet, eh bien, l'histoire de l'homme, l'histoire de proximité, on pourrait dire, nous intéresse surtout à partir d'une dizaine de millions d'années, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a un grand embranchement qui, pour moi, est essentiel. C'est l'embranchement essentiel, puisque c'est celui qui va nous séparer de nos cousins, les grands singes africains, les chimpanzés et les bonobos. Et ce grand embranchement est donc fondamental, puisque à partir de cet embranchement, comme à partir de n'importe quelle séparation de branches, nous allons avoir une histoire tout à fait autonome qui ne sera plus partagée avec d'autres êtres vivants. Alors au passage, bien entendu, je confirme que nous descendons bel et bien de singes, appelons les êtres par leur nom, et que les chimpanzés et les bonobos sont incontestablement nos cousins les plus proches, ce qui tout de même signifie un cousinage d'une dizaine de millions d'années, ce qui est très respectable comme durée. J'ose vous rappeler l'histoire de ma grand-mère que je raconte à chaque fois. Ma gentille grand-mère, elle participe à mes conférences, mais comme elle m'avait dit un jour, si toi, mon petit-fils, tu descends du singe, moi sûrement pas. Vous comprenez que dès ma petite enfance, j'ai eu à me pencher sur ces déclarations pour essayer de les démontrer, de les justifier. Et ma petite grand-mère est morte à 99 ans, mais je n'ai pas réussi à la convaincre, je pense. En tout cas, néanmoins, malgré ma grand-mère, nous descendons des grands singes. J'aurais envie de vous raconter une petite histoire à cet égard. Oui, je vais le faire, parce qu'elle est très jolie. Pour vérifier, c'est une histoire classique, l'intelligence des cousins chimpanzés, il y a une expérience tout à fait banale qui consiste à placer des fruits au plafond d'une pièce et des fruits que le chimpanzé ne peut pas atteindre. De mettre dans un coin de la pièce une table et en montant sur la table, il ne peut toujours pas atteindre les fruits en question. Et de mettre une chaise dans un autre coin, et s'il a l'idée de mettre la table sous les fruits, la chaise sur la table, de monter sur la table, de monter sur la chaise, il peut attraper les fruits. Donc c'est un protocole bien connu, et c'est simplement pour vérifier l'astuce de nos cousins chimpanzés. C'est malin, vous savez, les chercheurs. Et alors, un beau jour, on a eu l'idée avec un ami du muséum, c'était Jean-Jacques Péter, de refaire cette expérience. On a donc accroché des bananes à un plafond d'une pièce du muséum. Comme vous l'imaginez, le muséum n'a pas beaucoup de sous, donc trouver une pièce qui puisse servir à l'expérimentation, ce n'était déjà pas simple. Accrocher des bananes au plafond, je ne vous dis pas la complication. Et on a apporté une table, apporté une chaise et fait rentrer le chimpanzé. Et donc on ferme la porte et je dis à cet ami, regarde ce qui se passe. Donc il regarde par le trou de la serrure et il me dit, je ne vois rien du tout. Oh, c'est tout à fait anormal, c'est pas possible. Regarde encore. Il regarde, il a eu un haut le corps et il m'a dit, ah, tu sais pas ce que j'ai vu ? L'œil du chimpanzé. Et c'était finalement la plus belle démonstration de l'intelligence de ce petit cousin. Et en fait, regardez comme c'est bête les chercheurs. On n'avait pas eu idée qu'un chimpanzé d'un zoo est évidemment nourri, qui n'avait absolument rien à faire de nos bananes, ça ne l'intéressait pas du tout. Et il s'est demandé, bien sûr, de l'autre côté de la porte, pourquoi on le mettait comme ça, tout seul dans une pièce. Et donc, Jean-Jacques Péter est parti. Il me dit, je ne peux plus voir ce type. Il m'a pris en flagrant délit de voyeurisme. Et c'est moi qui suis rentré la main dans la main avec le chimpanzé vers sa cage. Donc, 10 millions d'années. Nous sommes à 10 millions d'années. On se sépare de ces gentils cousins. Et comme ce sont incontestablement sur le plan anatomique, morphologique, moléculaire aussi, physiologique, éthologique, les êtres qui nous sont les plus proches, et comme ils sont à la fois tropicaux et à la fois africains, on avait quelque chance de chercher ces ancêtres communs ou cet embranchement sous les tropiques d'Afrique. Et en effet, c'est en Afrique et en Afrique seulement, exclusivement, que l'on a trouvé pour le moment tous les préhumains que l'on connaît, et on en a quand même trouvé une quinzaine. Alors, ne vous fiez pas, s'il y a des journalistes ici, je suis content aussi de le leur dire, qu'il cesse d'écrire à chaque découverte que tout est bouleversé et que les paléontologues n'ont rien compris. Si, ça va très bien, rien n'est bouleversé du tout, et malgré les découvertes préhumains qui se multiplient, il ne se passe pas de brouillage dans nos esprits. C'est très normal que les préhumains représentent comme ça un bouquet de formes. C'est comme cela que ça se passe pour l'évolution des cochons, l'évolution des chevaux, l'évolution des éléphants, l'évolution des bovidés. Donc on ne pouvait pas s'attendre à un autre type d'évolution. Donc c'est très normal que l'on trouve beaucoup de préhumains. Et ces préhumains se diversifient comme les autres, et se diversifient avec plus ou moins de succès, c'est-à-dire que certains vont persister, d'autres vont s'éteindre. Ces préhumains ont donc un certain nombre de caractéristiques. Ce sont donc ceux qui nous précèdent, bien sûr, immédiatement. Ils ont des caractéristiques qui nous intéressent. Ils sont tropicaux, je l'ai déjà dit. Ils sont africains, je l'ai déjà dit, tous. Ils sont debout. Voilà une chose particulièrement importante. Ils sont debout sur leurs pattes postérieures. Et ils sont bipèdes. Et au début de leur histoire, cette bipédie est mêlée, associée à un arboricolisme, c'est-à-dire qu'ils continuent à grimper tout en marchant sur leurs pattes postérieures quand ils sont à terre. Ils grimpent et marchent. C'est le cas d'un préhumain qui s'appelle Ardipithecus, et dont les plus anciens ont 5 800 000 ans, donc près de 6 millions d'années. C'est le cas d'un autre préhumain, celui-là a été trouvé, excusez-moi, en Éthiopie. C'est le cas d'un autre préhumain qui s'appelle Ororin, qui a été trouvé au Kenya, et qui lui aussi est à la fois bipède et grimpeur. Et c'est le cas de Australopithecus afarensis, autrement dit Lucie, je pense que vous connaissez un peu ce personnage, et qui n'a que 3 200 000 ans, mais qui grimpe et marche encore en même temps. Par contre, parmi ces préhumains, on en trouve dès 4 millions d'années, celui que l'on appelle Australopithecus anamensis, qui a à la fois une articulation du coude extrêmement lâche, extrêmement peu stable, comme notre propre articulation de notre propre coude, et au contraire une articulation du genou très solide. Ce qui veut dire que dès 4 millions d'années, il y a des préhumains qui sont bipèdes exclusifs, qui ne grimpent plus. Alors, quelle qu'en soit la raison. Mais en tout cas, c'est un prélude à l'histoire humaine, bien sûr, et c'est particulièrement intéressant de trouver dès 4 millions d'années ces formes préhumaines avec déjà ce type d'articulation qui se trouve être le nôtre. Ceci se passe donc entre 10 millions d'années et 1 million d'années, et les premiers humains apparaissent autour de 3 millions d'années, et sont donc, puisqu'ils ont 3 millions d'années, entre 3 millions d'années et aujourd'hui, ils sont donc contemporains des derniers préhumains. Autrement dit, il y a encore quelques éléments que l'on peut appeler comme ça, préhumain, parce que c'est commode, associé contemporain des premiers hommes. Alors l'homme apparaît, lui, autour de 3 millions d'années, comme je vous le disais, et il se démarque, il se distingue des préhumains par la bipédie exclusive dont j'avais parlé, par un cerveau qui se développe incontestablement en qualité sûrement, mais aussi en volume, pour la première fois. Le cerveau des préhumains avait grandi, mais très doucement. Là, c'est vraiment un saut dans l'augmentation volumétrique du cerveau, et qui, bien sûr, induit un agrandissement aussi du crâne qui le contient. Et ces hommes se distinguent aussi par une denture nouvelle. Les dents ont des proportions différentes. Les dents antérieures sont un peu plus grandes, les dents latérales sont un peu plus petites. Et l'ensemble représente une denture d'omnivore. C'est-à-dire que l'homme, par opposition, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas par démarcation des préhumains, au lieu de ne manger que des végétaux, se met à manger aussi de la viande. Ils continuent à manger des végétaux, mais ils mangent aussi de la viande. Et pourquoi cela? Parce que entre 3 millions d'années et 2 millions d'années, en gros, on peut être plus précis, se passe un changement climatique extrêmement important, extrêmement important. J'ai eu le bonheur de travailler sur ce changement climatique pendant 10 ans dans le sud de l'Éthiopie. Et dans le sud de l'Éthiopie, j'avais donc des couches géologiques remplies de fossiles et qui allaient de un peu plus de 3 millions d'années à un peu moins d'un million d'années. Et donc je voyais par les découvertes de fossiles recueillis dans ces couches, je voyais incontestablement un climat humide devenir moins humide. On peut dire ça comme ça pour ne pas être excessif. Je vous donne une idée. Les pollens des plantes que l'on recueillait dans ces couches, lorsqu'il s'agissait de pollen de 3 millions d'années, si on faisait la fraction, le rapport, l'indice, si vous voulez, une fraction du nombre de pollens d'arbres sur le nombre de pollens d'herbes, donc c'est un indice d'autant plus haut qu'il y a plus d'arbres, d'autant plus bas qu'il y en a moins, eh bien cet indice à 3 millions d'années me donnait 0,4 et à 2 millions d'années me donnait 0,01. C'est dire que le changement climatique avait été vraiment très important. Or, ma formation est une formation de paléontologue au sens large, c'est-à-dire que j'ai étudié toute la faune, en l'occurrence 50 000 ossements. Je m'excuse de ces chiffres, mais quand même, ça devient statistiquement significatif. Et ces ossements m'ont montré que les éléphants se sont adaptés à ce changement climatique en augmentant la hauteur du fût de leurs dents. Les cochons se sont adaptés à ce changement climatique en augmentant la longueur de leurs dents et le nombre de leurs cuspides. Les bovidés se sont adaptés à ce changement climatique. Les bovidés de brousse sont partis, les bovidés de prairie sont arrivés. Les chevaux se sont adaptés à ce changement climatique en ayant aussi des dents plus hautes, ce qu'on appelle l'hypsodontie. Et en changeant d'espèce, c'est à partir de ce moment-là que le pré-cheval que l'on appelle hyparion est remplacé par le vrai cheval que l'on appelle écus, qui court beaucoup mieux. Au lieu de courir sur trois doigts, il court sur un seul. Autrement dit, toute la faune nous donne l'image de ce changement climatique. C'est superbe, c'est absolument superbe. Et il n'y a pas d'exception. Quand les bêtes ne se sentent pas bien, ou bien elles s'éteignent, ou elles s'en vont, et d'autres arrivent. Or, en même temps que ces animaux-là, eh bien, l'homme lui-même va se transformer. C'est-à-dire que les préhumains vont devenir des préhumains à dentures beaucoup plus robustes pour manger des végétaux beaucoup plus coriaces, les végétaux qui restent. Et les hommes apparaissent comme, je vous l'ai dit, comme des omnivores, autrement dit, comme des êtres qui ont agrandi leur menu à de la viande. Ils ne se sont pas mis à manger de la viande par gourmandise, mais ils se sont mis à manger de la viande par nécessité. Donc le genre homo apparaît véritablement comme les autres, comme une nécessité adaptative au sein d'un monde qui change, comme une nécessité de s'adapter à une sécheresse de manière tout à fait claire. Enfin, pour moi, c'est vraiment, ça ne fait pas de doute. Et à ce moment-là, cet homme avec cette augmentation du cerveau, qui se trouve avoir choisi, entre guillemets, bien sûr, ce type d'adaptation, va voir en sa tête émerger la conscience réfléchie. Et je me rappelle de Jean Piveteau, qui a été mon patron, qui lui-même avait été très ami de Teilhard de Chardin, définir la conscience en disant « l'animal sait beaucoup de choses, il sait, mais l'homme sait qu'il sait ». Et je trouve ça très joli, c'est vraiment la réflexion en miroir. Non seulement nous savons des choses, mais nous savons que nous les savons. Et c'est une définition qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est une définition qui permet en tout cas de différencier tout d'un coup ce progrès à nouveau de la complication et de l'organisation de la matière. C'est-à-dire que vous vous souvenez qu'on est parti de l'inerte, on est passé par la vivante, et voilà une partie de la matière vivante qui devient une matière pensante, et nous sommes aujourd'hui le seul réceptacle de cette matière pensante. Et pour démontrer cela, d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'apparaissent les outils de pierre taillée, enfin de pierre parce que les autres ont disparu, ne se sont pas conservés, mais les outils de pierre, on les trouve dès 3 millions d'années, peut-être un petit peu plus, dès ces époques-là, accompagnant ces premiers hommes, et peut-être les derniers des préhumains, après tout, on ne sait pas qui a fait quoi. Et cet homme, eh bien, se trouvant mieux équipé, parce qu'il a son corps qui est prolongé par ses outils qui lui permettent de conquérir de nouvelles niches écologiques, cet homme qui, ayant réussi son adaptation à un effectif qui grandit, alors sa démographie n'est pas galopante, mais enfin, elle grossit doucement, cet homme qui a une réflexion meilleure, qui a donc une curiosité plus grande, cet homme qui, en plus, est omnivore, c'est-à-dire que se mettant à manger de la viande, il doit courir après le gibier et il devient par suite plus mobile. Et en plus de cela, une pression de l'environnement fait que pour ces cinq raisons, l'homme, tout de suite, pour moi, tout de suite, s'il est apparu il y a 3 millions d'années, c'est dès 2 millions et demi d'années qu'il commence à se déployer. Moi, je suis convaincu qu'il n'a pas attendu différents stades pour bouger, il a bougé tout de suite. C'est-à-dire que c'est dès sa forme la plus ancienne, que l'on appelle habilis, qu'il s'est mis à se déployer, à s'étendre sur, en fait, la terre entière. Alors, je le répète, omnivore, ça le fait courir après le gibier, il est plus mobile. Réflexion, il est plus curieux. L'environnement, qui fait aussi pression sur lui. L'équipement, cette fois-là, il a des outils. Et son effectif, tout ça fait qu'il bouge. Et il bouge forcément dans le sens de la géographie. C'est-à-dire qu'on va le trouver sur l'ensemble du continent africain d'abord. Il n'y a pas 36 moyens de sortir d'Afrique. Peut-être par le Bab el-Mandeb et petite traversée de la mer Rouge qui est plus étroite à ce moment-là qu'aujourd'hui. Mais en tout cas sûrement par le Sinaï. C'est par le Sinaï qu'il passe. Il arrive au Proche-Orient et il y a un site en Israël dont l'âge ne me paraît pas bien précis pour le moment. Mais quand même, qui s'appelle Yiron et qui est daté de 2 300 000 ans, un site de pierre taillée. Donc je ne suis pas étonné, moi, de trouver l'homme dès 2 millions et demi d'années au Proche-Orient. Et c'est à partir de ce Proche-Orient que cet homme va se répandre sur l'Europe d'une part, sur l'Asie d'autre part, très vite, encore une fois. Un certain nombre de collègues ne veulent pas entendre parler de 2 millions d'années, 2 millions et demi d'années pour l'Europe. C'est vrai que les outils que l'on a en Europe, pour le moment, en tout cas les outils très anciens que l'on a, ont des dates qui ne sont pas tout à fait assurées. Mais on a des 2 millions 3 aussi dans le massif central français. On a peut-être 1 800 000 ans pour des restes des outillages du bassin de Grenade. Donc il y a quelques éléments en Europe qui indiquent un très vieux peuplement. Et en Asie, on a 1 800 000 ans à Java, on a 1 800 000 ans pour des restes, 2 millions d'années, peut-être 2 millions d'années, pour des restes d'outillage en Chine. Donc c'est quand même un ordre de grandeur. Donc voilà l'homme parti d'Afrique, déployé sur toute l'Afrique, déployé sur toute l'Eurasie, sur l'ensemble de l'Eurasie. Là, il occupe tout l'ancien monde. Mais comme d'habitude, tout change. Et en l'occurrence, les climats aussi vont changer. Et les climats changeant, il se trouve que durant ces dernières époques du Quaternaire, il va y avoir une série, un cycle de périodes froides et de périodes tempérées, disons. Pendant les périodes froides, les glaciers retiennent l'eau et il y a une baisse du niveau de la mer considérable, quelquefois des tranches de 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres. Mais la glace va fermer littéralement l'Europe, va fermer l'Europe, et quand on est en période interglaciaire, les glaciers fondent, l'eau remonte, et l'eau remontant va isoler Java et va isoler Flores. Alors, je pourrais vous parler de 36 000 autres îles, mais je vous parle de celle-là pour des raisons très précises, parce que à la fois en Europe, à Java et à Flores, on a trouvé des restes d'hommes, d'humains très anciens. Et il se passe donc à ce moment-là une parcellisation, balkanisation, je ne sais pas comment dire, de certaines parties de l'Eurasie, et ceci va entraîner ce que ça pourrait entraîner pour n'importe quelle espèce végétale ou animale, c'est-à-dire des dérives génétiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'origine, l'homme est le même. C'est l'Homo habilis, je vous ai dit, qui est sans doute sorti du continent africain. Puis il s'est fait autre chose, il s'est fait Homo ergaster, mais peu importe les noms. Il s'est fait Homo erectus. Eh bien, cet Homo erectus, en Europe, dérive génétique, parce que l'Europe s'est isolée par les glaciers, va devenir l'homme de Néandertal. Et il s'est isolé à Java, où cet Homo erectus va devenir un Homo erectus très particulier qu'on appelle l'homme de Java ou le pithécanthrope. Il va s'isoler à Flores sous la forme de ce petit homme qu'on a trouvé il n'y a pas longtemps, qu'on appelle l'homme de Flores ou l'Homo floresiensis, alors que ce même Homo erectus, dans l'Afrique et l'Asie continentale, va devenir l'Homo sapiens. Alors je vous raconte ce détail, si l'on peut dire, parce que c'est très intéressant, même sur le plan philosophique, de se rendre compte qu'à une époque de 500 000, 1 million d'années, 500 000 ans, 1 million d'années, il y avait sur la Terre quatre humanités côte à côte, peut-être quatre espèces. On ne sait pas si ce sont de vraies espèces. Mais en tout cas, il y avait l'Homo sapiens, l'Homo erectus était devenu sapiens, en Asie, là au Proche-Orient, pas loin, et aussi en Afrique. Il y avait l'Homo neanderthalensis, l'homme de Néandertal en Europe. Il y avait l'Homo erectus de Java, qu'on appelle Soloensis parfois, et l'Homo floresiensis à Flores. Et c'est quand même intéressant de se rendre compte que l'humanité s'est diversifiée elle-même, comme se diversifie la vie lorsqu'elle est soumise à des conditions d'isolement. Ce qui me fait dire, mais ça c'est une parenthèse, de futurologie un petit peu imaginative, que désormais les communications sont suffisantes pour qu'on n'ait pas de surprise par des isolements intempestifs. Par contre, comme on ne va pas tarder à aller s'installer sur d'autres planètes, il est évident que si on laisse trop longtemps la petite colonie qui se sera installée sur une planète sans aller lui rendre visite, eh bien, quand on ira la voir, on sera surpris de voir que les looks, comme on dit dans certains mondes, auront changé. Quelquefois, à des publics, d'autres publics que le vôtre, que le nôtre, je dis aussi, et c'est amusant de voir la réaction des gens, imaginez que la pièce ici soit fermée, on ne puisse plus sortir. D'après les visages que je vois, l'interfécondité pourra se faire, et au bout d'un certain nombre de centaines de milliers d'années, lorsque l'on sortira, on sera bien différent, on aura subi une dérive génétique, parce que le choix des alliances, évidemment, n'est pas le même à l'intérieur qu'à l'extérieur, que les gens que l'on rencontrera après l'ouverture des portes. Et je suis sûr, parce que je regarde bien les gens quand ils sortent, que certains sont soulagés que la porte puisse s'ouvrir. Donc, voilà cette humanité. Et il y a une cinquantaine de milliers d'années, pour prendre un chiffre un peu rond, en fait, c'est 60 000 ans parfois, peut-être 40 000 ans d'autres fois, l'Homo sapiens, qui est là en Afrique et en Asie, mais surtout en Asie continentale, va repartir de proche en proche. Et il va évidemment arriver à Java, de Java il va arriver à Flores, et d'Asie il va arriver en Europe. Et il va se trouver cohabité avec l'homme de Néandertal en Europe, avec le pithécanthrope à Java, avec l'homme de Flores à Flores, et à terme, mais ça veut dire sans doute plusieurs milliers d'années, plusieurs milliers d'années de coexistence, à terme, c'est l'homo sapiens qui va prévaloir. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui tous des homo sapiens sapiens. Néandertal s'est éteint autour de 30 000 ans. L'homme de Java s'est éteint autour de 30 000 ans. Il y a des dates récentes qui lui donnent 25 000, 27 000. Et l'homme de Flores, qui c'est une petite île un peu plus loin que Java, plus à l'est que Java. Et l'homme de Flores, lui, s'est éteint il y a beaucoup moins de temps, puisque les échantillons que l'on a trouvés il y a 2 ans n'auraient que 12 à 18 000 ans, donc 15 000 ans, si vous voulez. Donc lui a vraiment tenu très longtemps. Et c'est à ce moment-là aussi que l'homo sapiens va passer en Amérique à pied, parce qu'une glaciation aura permis au détroit de Bering d'émerger. Et il va conquérir l'Amérique, enfin il va peupler l'Amérique sans problème, puisqu'il n'y a pas d'autre compétition humaine en Amérique, qui est véritablement le Nouveau Monde, bien que ce peuplement ne se soit pas fait probablement avant 30 à 50 000 ans, disons, au mieux. Et il va conquérir aussi l'Australie, et cette fois-là probablement en bateau, en radeau, parce qu'il y a un passage maritime obligé là, entre les dernières terres indonésiennes et l'Océanie. Donc voilà cette histoire étonnante quand même, très amusante, très intéressante. D'abord de cette matière, j'y reviens, cette matière à l'origine dite inerte, qui devient en partie vivante sur la Terre, laquelle matière vivante devient en partie pensante sur la Terre, c'est-à-dire que l'on peut penser avec cette information scientifique que dans l'avenir, nous n'avons aucune raison de rester comme nous sommes, et si l'humanité survit aux agressions extérieures, biologique, microbienne, je ne sais quoi, virale, cosmique, il y a quelque chance que ce soit par elle que passe la future complication et organisation. On va peut-être faire une surhumanité prochaine. Et d'autre part, c'est très impressionnant de voir que dans ces milliards de galaxies qui contiennent elles-mêmes des milliards de soleils, lesquels soleils sont entourés de milliards de planètes, nous soyons si un petit mammifère, si faible, si étrange, sur une petite planète qui n'est pas parmi les plus remarquables, autour d'une étoile qui n'est pas parmi les plus remarquables, dans une galaxie qui n'a rien d'extraordinaire, sauf qu'elle est belle. C'est amusant de voir en même temps que nous représentons ce contenant de l'état le plus compliqué et le mieux organisé de la matière, en particulier à l'Institut de France, naturellement. Merci beaucoup.
C'était le professeur et académicien des sciences Yves Coppens, célèbre paléontologue français, internationalement reconnu. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous propose 2 livres. Le premier, La plus belle histoire du monde, écrit par Hubert Reeves, Joël de Ronet et Yves Coppens, aux éditions du Point, paru en 2005. Le second s'appelle Homo sapiens, rédigé par Yves Coppens et Patrick Glaise, aux éditions Flammarion, et paru en novembre 2005. Ce livre est accompagné du making-of de la série télévisée Homo sapiens, suite de l'Odyssée de l'espèce. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir et à bientôt.